Week-end extra avec Mathieu Beaumont, votre magazine du week-end. Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
9h48, monsieur.
Oui.
Parle-moi du mystère d'Amherst.
Oui, le mystère d'Amherst. Écoute, c'est l'une des plus extraordinaires histoire de fantômes jamais rapportée au Canada. Et l'affaire avait énormément suscité d'intérêt dans la presse. Il y a même des ouvrages qui ont été consacrés à cette histoire-là, qui commence assez banalement parce que on est en 1878, on est le 4 septembre 1878, on se trouve à Amherst, c'est en Nouvelle-Écosse, c'est tout près de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. On est dans une petite maison, un petit bungalow sur Princess Street, et là, il y a plusieurs personnes dans cette maison. Et d'abord, il y a le couple Daniel Teed et son épouse Olive, et ces gens-là ont deux enfants et il y a en partie des enfants de la belle famille également. Donc, les frères et sœurs d'Olive qui habitent également avec elle, dont l'une de ses sœurs, âgée de 19 ans, qui s'appelle Esther. Donc, ils sont nés Cox, donc Olive Cox, et dans la maisonnée, comme je mentionne, son frère et deux de ses sœurs, dont cette Esther Cox, qui va devenir un peu la cible de phénomènes mystérieux. En fait, tout ça commence, comme je l'ai mentionné, le 4 septembre 1878. Les deux sœurs Cox, Jane et Esther, partagent une chambre dans la maison au deuxième. Tout ça commence par des grattements sous le lit.
Alors, ça met des souris, ça.
Alors, évidemment, elle pense à des souris, à des rongeurs. Les deux jeunes femmes regardent sous le lit et elles sortent une petite boîte de couture dans laquelle il y a quelques morceaux de tissu, des bobines de fil, et elles voient la boîte qui s'agite d'elle-même. Elles tassent les objets à l'intérieur, il n'y a rien. C'est comme si la boîte était douée d'une vie propre. Là, on est le 4 septembre. Le lendemain soir, mécanisme assez semblable. Donc, les deux jeunes femmes se mettent au lit et puis, soudain, Jane est réveillée par des cris. Elle ouvre les yeux et elle voit sa sœur, Esther, qui est là au milieu de la pièce, qui tire sur ses vêtements, qui est en sueur, et elle dit « je meurs, je brûle ». Elle est comme prise d'une espèce de transe à ce moment-là. Visiblement, Esther ne va pas bien. Donc, dans les jours qui suivent, elle est alitée et là, des coups sont frappés dans les murs, des meubles se déplacent et tout ça se fait dans l'entourage même d'Esther. Elle n'est pas immédiatement près de ces objets qui bougent, mais elle est toujours dans la maison. Alors qu'elle se trouve, par exemple, à la cuisine, un meuble est renversé au salon, ce genre de truc. Et puis voilà, comme l'état d'Esther ne va pas mieux, elle est alitée. On décide de faire appel à un médecin local, le docteur Carrit, qui arrive sur place. Et là, l'affaire va vraiment prendre son envol, alors que le docteur Carrit est au chevet d'Esther, qui est alitée, qui transpire, qui fait de la fièvre. Le docteur Carrit constate qu'au moment où il ausculte la jeune femme, son oreiller semble être tiré par des mains invisibles. Il replace l'oreiller sous la tête d'Esther, qui prend un peu de convulsion. Et là, voilà que des morceaux de plâtre se détache du mur. Il lève les yeux, la famille est là, tout le tour d'Esther qui est étendue sur son lit. Et là, sur le mur, au-dessus d'Esther, il voit comme si quelqu'un travaillait avec un burin invisible. Il écrit les mots « Esther, tu es mienne pour que je te tue ». Alors, évidemment, il s'agit d'une annonce plutôt macabre.
C'est pas de bonne nouvelle, on s'entend.
Et à partir de là, les manifestations vont aller crescendo, elles vont augmenter. Donc, encore coups frappés dans les murs, meubles qui se déplacent, mais également des allumettes enflammées qui semblent sortir du plafond et tomber à des endroits différents dans la maison, qui déclenchent des incendies, heureusement vite maîtrisés. Mais on comprend que la famille vit énormément dans l'inquiétude. Les phénomènes sont généralement concentrés, comme je l'ai mentionné, à la petite maison de Princess Street. Et lorsque Esther n'est pas dans la maison, les manifestations s'arrêtent. À un moment donné, d'ailleurs, elle est atteinte de diphtérie. Elle va vivre quelques jours chez des parents de l'autre côté de la frontière, au Nouveau-Brunswick. Et durant cette période, nous sommes en janvier 1879, les manifestations s'arrêtent. Elles ne suivent pas Esther dans sa nouvelle résidence et rien ne se produit à Amherst. Mais lorsqu'elle se sent mieux et qu'elle revient chez elle, les manifestations reprennent de nouveau. Il est rare que des manifestation soit observée à l'extérieur, mais à un moment donné, et tu comprendras que, bien sûr, ça va jouer sur l'imaginaire des gens, la famille Cox-Steve se trouve à ce moment-là à la petite église locale, et soudain, au milieu de l'homélie, les missels placés devant les paroissiens s'envolent et sont lancés de toutes parts à l'intérieur de l'église, comme si des centaines de mains invisibles prenaient ces livres et les lançaient comme ça aux paroissiens et aux fidèles. Alors évidemment, l'affaire déborde, tout ça se tourne toujours autour d'Esther Cox. Les événements, comme les événements débordent de Amherst, évidemment, ça commence à attirer des gens. La petite maison devient évidemment l'objet des curiosités de tout le comté. On vient de partout pour être témoin de ces manifestations. Un prêtre, par exemple, qui visite la famille Cox, raconte qu'à un moment donné, alors qu'Esther se tient dans une pièce voisine, il voit un baquet d'eau bénite se mettre à bouillir. Alors, tu comprends l'association avec le diable. Il est vite dans la pièce. Et d'autant plus qu'il y a eu cette fameuse, cette annonce, hein, Esther Cox, tu es mienne pour que je te tue. Et là, évidemment, à cause de l'intérêt que soulève cette histoire et d'une espèce de tourisme macabre qui se produit, ça attire des gens de tout le monde. Et c'est là qu'arrive un dénommé Hubble. Le type est William Hubble, c'était un type qui est un peu louche, hein. Il fait du théâtre, il fait un peu du journalisme. En fait, c'est un bonhomme qui, on pourrait un peu l'associer à Barnum & Bailey. Tu vois, un peu un espèce de forain qui est là toujours pour faire quelques dollars. Il se présente donc à la maison des Fox en question, où il est lui-même témoin de manifestations. À un moment donné, des couteaux sont lancés dans la direction de Hubble. Il voit une chaise qui poursuit littéralement Esther. Alors, pour lui, il se dit, il y a des sous à faire avec ça. Alors, comme le fantôme, il fallait bien lui donner un nom, Esther l'a baptisé Robert le fantôme, alors Hubble décide d'organiser des séances de théâtre durant lesquelles Esther sera mise sur scène et on espère, bien sûr, que le fantôme de Robert va se manifester devant le public.
Alors, c'est un peu comme la voûte d'Al Capone de Geraldo Rivera. C'est un gros risque, me semble. C'est de faire ça en direct.
Ou l'ouverture du coffre du Titanic.
Ouais, c'est ça.
Avec Telly Savalas, qui avait été un flop. Et, c'est le conseil avant le conseil, hein. Hubble aurait dû suivre ça parce que ça ne fonctionne pas. Donc, on amène Esther on lui fait faire une espèce de tournée. Ça ne fonctionne pas. Le fantôme de Robert ne se manifeste pas. Alors, Hubble, dessous, donne un peu congé à Esther, qui rentre chez elle, qui continue à vivre dans sa famille. Les manifestations continuent à se produire. À un moment donné, Monsieur T ne peut plus endurer la présence d'Esther autour de ses enfants. Il lui demande de partir. Elle va vivre chez des voisins. Et un incendie se déclenche dans la ferme des 10 voisins. Alors, tu comprendras qu'il y a des accusations directement pour incendie volontaire qui sont portées contre Esther Cox. Elle est condamnée à plusieurs mois de prison. Après ça, elle va quitter, va se marier. Les manifestations vont s'arrêter et on n'arrivera jamais à trouver une explication définitive aux étranges manifestations. Et la fraude est presque exclue dans ce cas-là.
Elle cherchait l'amour.
Peut-être.
Quand elle a trouvé l'amour, tout s'est arrêté.
Effectivement.
Le mariage, c'est la solution.
Merci d'avoir été des nôtres cette semaine.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir, Mathieu.
Salut. Dans un instant, Martin McGuire sera avec nous. On ira au Mali rejoindre Fabrice de Pierrebourg également et d'autres billets pour aller voir Guy Nantel.